sans une implication populaire constante. C'est très difficile.
Comment vous la suscitez, cette implication populaire, partout, de tous, partout, tout le temps, c'est-à-dire la démocratie participative, parce que c'est ça dont vous parlez. Je ne sais pas si vous employez le mot dans votre bouquin. Bon, enfin, c'est ce à quoi on pense.
C'est un grand clivage. Oui. Alors d'abord, comment? C'est la méthode dite des dialogues fracassants. Il faut que tout soit sujet à débat. C'est-à-dire le contraire de ce que vous venez de manger pendant 30 ans. Pendant 30 ans, on vous a dit, c'est le consensus. La bonne idée, c'est celle sur laquelle tout le monde est d'accord. Résultat, la bonne idée sur laquelle tout le monde est d'accord, c'était celle des élites libéralisées et achetées par le système. Les titulaires de stock-options et les rétribués des conférences internationales, plus ou moins payés par les Américains et le reste, enfin tout le monde connaît tout ça par cœur. Donc, c'est plus ça qu'il faut faire. Il faut tout mettre en débat. Et puis, il faut impliquer la population dans les grands projets. Et c'est pas forcément la pagaille, ni l'Assemblée Générale Permanente, un truc pareil. Mais ça veut dire que partout, il faut briser la monarchie, partout, il faut briser l'oligarchie. Au travail, à bas les monarques. Bon.
Donc, vous êtes pas en train d'inventer l'autogestion, là, par hasard?
Nous avons un riche capital venu du passé. Il y a les idées d'autogestion, de démocratie participative. Moi, je propose quelque chose qui est d'un niveau d'exigence plus lié à l'histoire profonde de la France, qui est l'idée républicaine. Hein, le bien de tous, et pas seulement ce qui est bon pour soi. Donc, le peuple est souverain. Comment cette souveraineté peut-elle s'exercer? Bon, nous sommes dans un pays, vous signez un contrat de travail. Je ne sais pas si vous en rendez compte, les gars, mais c'est le seul moment de votre vie où, étant un individu libre, vous signez un papier dans lequel vous acceptez que vous êtes dans un rapport de subordination par rapport à quelqu'un d'autre. C'est la seule fois de votre vie qu'on vous demande ça. Vous voyez que la vie de l'entreprise est remplie du sentiment monarchique. Et ça donne des désastres. Pourquoi? Regardez. Comment la financiarisation, qui est en train de tuer l'économie, hein, cette énorme bulle de fric qui circule d'un bout à l'autre de l'univers, qui représente tous les jours 168 fois la production totale du monde, sous forme de signes monétaires qui circulent entre des ordinateurs. Par quel bout est-elle entrée dans le quotidien? Quelles sont ces fissures par lesquelles elle s'infiltre? Eh bien, il y en a de deux sortes. Les stock-options pour les patrons d'entreprise, qui ont donc un intérêt permanent à valoriser la cote boursière. Ils appellent ça créer de la valeur. Ça fait plus sympa que de dire on va s'en foutre plein les fouilles. Bon. Première faille, les stock-options qui pourrissent par la tête les grands patrons. Deuxième faille, c'est les ultra-riches. Souvent, ça choque les gens et disent « Ah bon, il y a un rapport entre les ultra-riches et tout ça ?» Mais oui, parce que l'ultra-riche, pour qu'il soit ultra-riche, il faut qu'il ait complètement dérégulé à la base. Donc, il faut qu'il y ait des ultra-pauvres, parce que celui qui est en bas et qui ne peut pas se défendre, on le prêche qu'à qui crève. Hein. Il n'y a pas de limite, sauf la résistance à l'exploitation. Donc, ces ultra-riches, que font-ils? Ils placent leur argent d'une manière déraisonnable. Et ça vous donne à la fin des Bettencourt, qui ne sait plus si elle a une île, un volcan, un fleuve. Et qu'est-ce qu'elle possède au juste? Et qui est là-dedans? Et qui sont les gens qui sont autour d'elle? Et c'est plus, hein. Parce qu'elle ne peut avoir que ce qui s'achète. Bon. C'est pourquoi les ultra-riches doivent être corrigés. Il faut tout leur prendre, au-delà d'une certaine somme, pour qu'ils deviennent raisonnables et qu'ils se comportent comme des êtres humains normaux. Donc moi, je ne suis pas trop gourmand. J'ai pris la barre de la Confédération européenne des syndicats pour les salaires. Eux, ils disent de 1 à 20. Alors, on me dit que c'est de 1 à 15. Moi, je veux bien mettre de 1 à 15. Hein, ça ne me dérange pas, ce n'est pas mes sous. Et j'ai fait la même chose pour le revenu. Donc ça donne, de 1 à 20, 360 000 euros par an. Tout ce qu'il y a au-dessus, on prend tout. Bon. On me dit, comment vous prenez tout? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais mes pauvres amis, jusqu'à Reagan, la tranche supérieure de l'impôt aux États-Unis, c'était 90%. En France, là, en 2002, c'était encore 52%, la tranche supérieure de l'impôt. Et c'est Chirac et puis ensuite Sarkozy qu'ils ont fait tomber ça à 40%. D'accord? La dernière tranche de l'impôt, c'est-à-dire là où c'est le maximum de blé. Il y avait 15 tranches avant, il n'y en a plus que 5. Vous voyez, on a favorisé l'accumulation de la richesse avec une idée médiévale. Ça ne m'étonne pas, hein, quand on a un monsieur Copé qui dit qu'il craint la nuit du 4 août, on comprend qu'il se situe plutôt du côté des monseigneurs. Et leur idée, c'est comme en 1789, c'est du moment que nous on est riches, il va y avoir des grosses miettes qui vont tomber de la table du riche dans l'assiette du pauvre. Et en 1789, on disait, mais comment vous allez supprimer la noblesse? Et qui va faire travailler les perruquiers? Et qui va payer les laquais? Et qui va payer les cochers? Vous vous rendez pas compte, c'est pas raisonnable, on disait aux révolutionnaires. Ben là, c'est pareil. Ils se disent, quoi? Vous voulez tout nous prendre? Vous allez nous démotiver, on va s'en aller. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur Mélenchon? Je réponds, au revoir. Allez-vous-en, on se passera de vous, il y en a un moins cher, qui feront aussi bien que vous. Et après, je propose de punir les émigrés fiscaux. Voilà. Ceux qui s'enfuient, qui quittent la patrie, la trahissent, qui veulent jamais payer rien du tout, alors qu'ils ont profité du pays et parfois continuent. On ne doit pas accepter, par exemple, quand on est un,